Est-ce que le théâtre est un truc de vieux? Bon, c'est sûrement un peu provocateur et simpliste, et il suffit de poser la question pour présupposer de la réponse. Évidemment que non, le théâtre n'est pas réservé à la couche la plus âgée de la population. Alors pour vérifier que le théâtre s'incarne aussi chez les plus jeunes, nous sommes allés rencontrer un groupe de lycéens de 4 établissements belfortins. Ils, et surtout elles, ont entre 16 et 18 ans, ils ont en commun d'avoir souscrit à l'option théâtre pour le bac. Au menu de cette option facultative, un rôle de spectateur critique. Dans l'année, ils se doivent fait d'assister à un certain nombre de pièces de théâtre au Granit, la scène nationale de Belfort. Ils doivent les analyser. Et à l'issue de ça, leurs analyses sont évaluées. C'est d'ailleurs sur la scène du Granit que nous les rencontrons pour le deuxième volet de leur option théâtre. En fin d'année, ils doivent en effet présenter un spectacle collectif mis en scène par un professionnel, un metteur en scène professionnel. On les a enregistrés, on les a rencontrés et on a rencontré leur prof de littérature. Rencontre avec une jeunesse qui aime et vit le théâtre. C'est le sujet de notre reportage. Comme de coutume, nous honorons ensuite notre partenariat avec les EAT, écrivains et écrivaines associés du théâtre. C'est Laura Desprins qui sera avec nous au téléphone. Elle est l'auteur de Coup de grâce, un texte lauréat du prix EAT, tout public pour 2025. Pascal Dutertre, tel le capitaine d'un paquebot nommé Architecture, vous gardez le cap historique et abordez de nouvelles terres dans votre découverte des lieux de théâtre au fil de l'histoire.
Oui, Eric, si je voulais parodier une comédie musicale autrefois succès, je dirais « Il est venu le temps des cathédrales ». C'est en effet au Moyen-Âge que j'ai choisi de m'intéresser aujourd'hui. Et le théâtre au Moyen-Âge, c'est un mystère.
Vous voilà bien mystérieux, mon cher Pascal. Pascal, c'est en fin d'émission que nous vous retrouverons. Vous aimez le théâtre, nous aussi. Vous avez le menu. Alors éteignez vos portables et restez avec nous. Voici Radio Scénique, 16e édition.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Le long du Doubs, le fleuve qui traverse Belfort, s'élève un bâtiment de 1872. Un édifice dont l'intérieur a été revu en style art déco en 1932. C'est le théâtre de la ville, scène nationale depuis 1991. Mais le Granit, avec plusieurs R, avec trois R, c'est le nom du théâtre de Belfort. Il doit son allure à l'intervention de l'architecte Jean Nouvel en 1983. Une intervention qui a fusionné le théâtre et la caserne qui lui était attenante. On pénètre dans le bâtiment par l'entrée des artistes. Et en entrant dans la grande salle, on entend le joyeux brouhaha des 14 élèves qui abordent là une des dernières répétitions du spectacle qu'ils présentent dans le cadre de leur option théâtre au bac. C'est la première fois qu'ils montent sur ce grand plateau nu, pas encore éclairé par les feux de la rampe. En bord de scène, leur prof de littérature et au milieu de la salle, le metteur en scène professionnel qui les encadre et leur dicte les instructions. Ils sont 14, 12 filles et 2 garçons, réunis pour répéter ce collage de textes consacrés à la folie. Un mélange d'auteurs classiques, contemporains et d'improvisation de la part des apprentis comédiens. Tous vêtus de noir et en chaussettes pour respecter l'espace sacré du plateau, ils se lancent avec timidité ou aplomb, testant le volume de leur voix dans ce théâtre à l'italienne de plus de 500 places, balcon compris. On a rencontré certains d'entre eux après leur répétition, découverte d'une passion pour la scène, reportage.
Cécile, j'ai 17 ans aussi.
Je m'appelle Lilou et j'ai 17 ans.
Je m'appelle Cali et j'ai 17 ans.
Je m'appelle Louane et j'ai 16 ans.
Je m'appelle Juliette et j'ai 16 ans.
Je m'appelle Chloé et j'ai 16 ans.
On est ici sur la scène nationale du granit à Belfort, dans le territoire de Belfort, en Bourgogne-Franche-Comté.
Et ce à quoi je viens d'assister, Cécile, c'est quoi ?
À une répétition de notre spectacle de représentation de fin d'année de l'Option Théâtre.
Alors ça parle de quoi cette représentation, Lilou ?
Alors on va aborder différents thèmes de la folie sous plusieurs angles avec plusieurs cas comme la schizophrénie, la dépression, le somnambulisme.
Qu'est-ce qui fait que tous les mercredis après-midi, vous vous mobilisez sur ce plateau ou en studio pour répéter ?
C'est, je pense, parce qu'on aime beaucoup cet art et que ça nous rapproche tous les uns des autres. On aime bien interpréter des personnages, leur donner vie et émouvoir des personnes aussi et transmettre ce qu'on nous apprend au public.
Chloé, tout ça, tous ces mercredis après-midi que vous passez en répétition, c'est pas tout à fait gratuit, il y a un but au bout, hein.
Oui, en fait, on a une note, du coup, comme toutes les autres matières, parce que c'est une option dans notre bulletin à la fin du semestre, et en plus ça va compter pour le bac.
Ça s'appelle comment cette option ?
L'option théâtre.
Alors cette option théâtre, ça veut dire que vous allez aussi régulièrement au théâtre, 6 ou 7 fois par an. Qu'est-ce que vous êtes allé voir cette année ? Qu'est-ce qui veut répondre à cette question ? Cécile, tu voulais répondre ?
Alors on a vu Andromaque en fin d'année, donc de Racine. En tout début d'année, on avait vu Hedwig et And the Angry Inch, donc c'était une comédie musicale. Et on a aussi vu la représentation théâtrale du Cercle des Poètes Disparus.
Quand est-ce que les unes et les autres, vous avez découvert le théâtre ? C'est récent ou c'était tout petit ? Lilou ?
Alors moi, j'en faisais dès l'école primaire. Ma mère, elle s'est dit « Waouh, ça lui va trop bien !» Et du coup, elle m'a inscrit plus tard en CM2 à un groupe. Et après, j'ai continué depuis le CM2, j'en fais.
Qu'est-ce que c'est qu'être comédien ? Parce qu'après tout, vous êtes des apprentis comédiens et comédiennes. C'est quoi de monter sur un plateau ? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de transmettre des émotions, faire des personnages. Fernando.
Être comédien, pour moi, c'est un peu sortir de qui on est vraiment. On endosse d'un coup la vie de quelqu'un, la vie d'un personnage. On doit faire comme si on était ce personnage. Et pour moi, c'est un peu comme une sorte d'échappatoire. Et c'est assez intéressant de voir du coup... sous l'angle du personnage, parce que des fois on joue des personnages avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, et c'est intéressant de jouer sous cet angle.
Et parfois on joue des personnages qui sont très stressants dans des scènes dramatiques. Juliette, il y a une scène dramatique qui est plus ou moins une scène de viol, hein.
Oui, en effet, je joue dans un extrait d'Ophélie de Shakespeare. C'est assez émouvant, en effet, c'est compliqué pour moi de me mettre entièrement dans le personnage, parce que c'est quand même assez grave, l'histoire derrière la scène.
Comment on va chercher ces émotions-là ? Comment est-ce qu'on arrive à être en dehors de soi ?
Alors, c'est beaucoup de travail, beaucoup de concentration, il m'en a fallu beaucoup, mais quand on sort entre guillemets de nous-mêmes pour se mettre pleinement, comme disait Fernando, dans le personnage donc ici d'Ophélie, ça vient petit à petit en fait. On ressent pleinement ce qu'on devrait ressentir et ça fait du bien.
Quelqu'un a dit tout à l'heure que on traite ici de la folie. Qui est-ce qui a choisi ce thème de la folie, Cécile ?
En tout début d'année, la prof elle nous a proposé un thème pour cette année. Donc elle nous a proposé la folie, on s'était dit tous ensemble que c'était une bonne idée. Donc on a commencé à travailler sur ce thème et à le développer.
Y compris à partir d'improvisation, Lilou ?
Oui, à la toute fin de la pièce, on a une improvisation qui a été écrite par 3 filles du groupe. Et aussi on a écrit, nous, des textes qui parlent de différents sujets comme l'anxiété, la dépression et l'autisme.
C'est des thèmes qui touchent particulièrement les jeunes que vous êtes, la dépression, l'autisme, les maladies mentales. Ah, oui, Chloé. Oui.
Du coup, c'était surtout important de sensibiliser parce que c'est des choses qu'on n'aborde pas souvent, ou alors on les aborde pas de cette manière. En fait, c'est assez dramatisé et assez diabolisé, alors qu'au final, nous, ce qu'on voulait montrer, c'est vraiment qu'on est tous des gens. Et c'est ce qu'on montre dans notre pièce parce que tous les personnages, enfin, dans chaque scène, il y a au moins un personnage qui va du coup avoir une maladie mentale. Et nous, du coup, on va essayer de retranscrire la scène plutôt du point de vue de ce personnage. Et pour montrer en fait ce qu'ils vivent, bah, comme du coup Ophélie pour Juliette, on va vraiment voir ce que vit Ophélie et la scène va être tournée autour d'elle.
Le théâtre, avant que vous en fassiez, c'était pour vous quelque chose de vieillot, un peu barbant, avec les classiques qu'on peut étudier au lycée. Cécile, tu veux à nouveau t'exprimer ?
Pas forcément, c'est pas quelque chose de vieillot, parce qu'il y a toujours des nouvelles pièces qui apparaissent. On connaît beaucoup les classiques, mais il y a aussi beaucoup de pièces récentes, et même les pièces classiques, elles peuvent être faites sous une nouveauté, avec une mise en scène plus moderne. Qu'on peut parfois observer dans les représentations.
Par rapport aux autres matières que vous pouvez étudier au lycée, le théâtre, ça occupe une place à part ou vous la considérez comme une matière qui vous permet d'avoir des notes, Cali?
C'est à part entière, je pense, parce que c'est pas vraiment la même chose. Certes, on apprend beaucoup de choses au théâtre, mais c'est aussi pour nous découvrir et nous faire plaisir, s'amuser. Et aussi apprendre de nouvelles choses, même si les matières à l'école sont aussi là pour nous faire apprendre, mais c'est plus entraînant d'être avec le théâtre.
J'ai l'impression que ce qu'est en train de dire Cali, c'est qu'on se découvre soi-même avec le théâtre, alors qu'avec les autres matières, on découvre juste des connaissances. J'ai bien compris, Louane, tu es du même avis?
Oui, je suis totalement d'accord avec Cali, parce que moi, quand je vais au théâtre, c'est pas pour travailler, c'est plus, je vois ça plus comme une passion. C'est vraiment, j'ai envie d'y aller par rapport au lycée où j'ai pas forcément envie d'y aller tout le temps. Mais oui, je vois ça vraiment à part entière, c'est de cœur.
En vous voyant là sur le plateau, on a l'impression, enfin, on a la démonstration que le théâtre, c'est des mots, mais c'est pas que des mots, c'est aussi des corps qui bougent. Vous bougez beaucoup, vous dansez beaucoup. Je vois que vous semblez être d'accord, Chloé.
Alors déjà, il faut savoir que pour les premières, notre travail il est principalement sur le corps. C'est le but de l'année première. Et du coup, c'est assez intéressant parce que on apprend souvent à parler comme à être dans le personnage. Par les paroles, mais c'est pas pareil. Parce que quand on est vraiment dans le personnage, on a le corps qui va suivre vraiment les idées, tout va suivre, et c'est assez intéressant à voir.
Moi, j'ai commencé à découvrir tout ce qui est jeu d'acteur, etc. en 2020-2021 avec une autre discipline qui est le doublage. On joue plus avec la voix qu'avec le corps. Je faisais ça en amateur de mon côté. Du coup, on apprend à jouer, à interpréter un personnage, mais avec la voix, on voit pas forcément le comédien. Et là, du coup, c'est une autre discipline, et pour moi, c'est plus intéressant d'apprendre à jouer avec sa voix, c'est cool. Mais jouer aussi avec son corps, montrer qu'on ressent des trucs et faire ressentir au spectateur quelque chose grâce à non seulement sa voix, mais aussi son corps et la façon dont on vit, je trouve que c'est vraiment intéressant.
Quand on lit les mots, ils bougent pas du papier. Tandis que là, vous les faites sortir du papier. Est-ce que ça ne crée pas un sentiment de fierté? Tu voulais dire quelque chose, Cécile?
Ça donne un peu une dimension plus réelle. Que parfois, on lit, mais on ne se dit pas « Ah, je me reconnais ». Dans la pièce, dans le texte, mais quand on monte, quand on joue, on peut se reconnaître dans les émotions qui sont transmises. On peut plus compatir avec les personnages que si on lisait juste le texte.
Quand on joue, est-ce qu'on croit à ce qu'on joue? Est-ce qu'on est dans le personnage? Est-ce qu'on souffre? Est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on aime? Lilou, tu voulais répondre.
Alors moi, personnellement, dans ma scène Leurla, je ressens exactement ce que le personnage ressent. C'est...
Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qui se passe avec ce personnage? Raconte-nous.
Ah ben, de la peur. Et c'est-à-dire, il cherche partout une autre présence parce qu'il se sent pas seul dans la pièce. Il a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Et du coup, il se met à chercher partout. Et du coup, moi, personnellement, dans mon corps, ça me provoque la même chose. Et je dois regarder partout parce que ça me fait peur aussi, du coup.
Oui, Chloé, tu voulais dire quelque chose?
Moi, je joue aussi dans Leurla, du coup, dans la même scène. Et c'est vrai parce que moi, je sais, quand je suis sur scène, je sens que mon cœur il bat super vite dans cette scène parce qu'on est vraiment très, très angoissé. En fait, on est le même personnage avec les loups et on a un personnage qui ressent vraiment la peur et l'angoisse. Et quand on crie, quand on parle super fort, en fait, ça vient limite naturellement parce que le personnage, on vit vraiment ce qu'il vit.
Cette expérience de comédien et de comédienne amateur, est-ce que ça a donné envie à certains d'entre vous d'aller plus loin, de continuer l'expérience au-delà du bac, hein, toi, Cali?
Quand je suis arrivée dans l'option,
L'option théâtre.
L'option théâtre, oui. Je suis arrivée dans l'idée d'aller plus loin après, parce que c'est ce que je voulais faire plus tard aussi. Et plus je fais du théâtre, ça fait déjà 2 ans, et plus j'en fais, plus je me rends compte que bah, j'aime vraiment ça et que j'ai envie de continuer le plus loin possible d'en faire.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui ça a donné envie d'aller plus loin, Louane ?
Alors moi, le théâtre, je ne connaissais pas vraiment avant cette année. Donc j'ai commencé cette année et je me suis découvert une nouvelle passion. Et vraiment, ça m'a vraiment donné envie de continuer là-dedans, dans ce domaine-là. Et j'ai envie de vraiment transmettre cet art aux prochaines générations.
Ça me fait froid dans le dos. Je perds mes moyens, j'ai plus de mots. Quand dans ce grand bain, ce bain de fou, je sens soudain que je coule. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Radio Scénique qui se pose aujourd'hui la question de savoir si le théâtre est vraiment un truc de vieux. Alors même si une étude sur les Français et le théâtre en date de juin 2023 atteste que les 15-34 ans représentent tout de même 37% du public, eh ben c'est peut-être faible, mais ça n'est pas faute d'intérêt. Si l'envie de théâtre est là, certains freins à cette sortie sont tenaces. Au premier rang desquels l'aspect financier, une raison qui est ainsi citée à 38%, bien avant le manque de temps. Bah eux, la motivation, ils l'ont, et le théâtre, ils y vont et ils le pratiquent. On les retrouve, ces lycéens de Belfort, qui ont décidé de faire du théâtre, une option au bac. Et on écoute d'ailleurs l'une d'eux, Juliette, enregistrée en répétition lors d'une scène extraaite du Hamlet
Comment
de Shakespeare.
Bien, Dieu merci. On dit que la chouette a été jadis la fille d'un boulanger. Seigneur, nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être. Que Dieu soit à votre table. Quelle allusion à son père. Ne parlons plus de cela, je vous prie. Mais quand on vous demandera ce que cela signifie, répondez « Bonjour, c'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui, tous sont levés de grand matin. Me voici vierge à votre fenêtre pour être votre Valentine. » Alors, il se leva et mit ses habits et ouvrit la porte de sa chambre. Et vierge, elle y entra et puis, onque vierge, elle n'en sortit. Jolie Ophélia, en vérité, je finirai sans blasphème. Par Jésus, par sainte charité, affi, quelle honte! Tous les jeunes gens font ça quand ils en viennent là. Par Priap, ils sont à blâmer. Avant de me chiffonner, dit-elle, vous me promettez de m'épouser. Et sa réponse, c'est ce que j'aurais fait par ce soleil là-bas, si tu étais venu dans mon lit. Depuis combien de temps est-elle ainsi? J'espère que tout ira bien. Il faut avoir de la patience. Mais je ne puis m'empêcher de penser qu'ils l'ont mis dans une froide terre. Mon frère le saura. Et sur ce, je vous remercie de votre bon conseil. Bonne nuit, mesdames. Bonne nuit, mes 12 dames. Bonne nuit. Bonne nuit.
Crazy. I'm crazy for feeling. So lonely, I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. you'd leave me for somebody new.
Radio Scénique décide aujourd'hui de s'interroger sur le fait de savoir si le théâtre est vraiment un truc de vieux. Et bien c'est pour ça qu'on est allé retrouver, qu'on est allé rencontrer des lycéens de Belfort, des lycéens qui ont choisi le théâtre comme option au bac. Ben oui. Et on les retrouve, ils sont réunis cette fois-ci dans le foyer du Granit, la scène nationale belfortaine. Il et elle continuent de répondre à nos questions.
Au niveau technique dans le jeu, qu'est-ce qui est le plus difficile, Fernando ?
Je pense que le plus difficile, c'est de comprendre déjà de quoi parle la scène et ce que vivent les personnages. Parce que si on n'a pas cette première étape, je pense qu'on ne peut pas construire une base solide pour la suite.
Alors et toi ?
Je pense que oui, c'est aussi la compréhension du texte, parce qu'il faut se mettre dans la tête du personnage, bien comprendre ce qu'il ressent et après pouvoir faire ressortir ça et faire comprendre ça aussi au spectateur.
Ça, c'était Cali qui répondait, et toi Lilou ?
Y a aussi le fait d'interpréter vraiment bien le personnage comme les gens voudraient qu'on l'interprète, pour qu'ils comprennent aussi, parce que c'est dur, on a notre propre vision et les gens ils vont pas forcément la voir, donc il faut aussi qu'ils puissent la comprendre, et ça c'est dur aussi de faire tout pour qu'ils comprennent.
Est-ce que ça arrive qu'un comédien apprenti ou qu'une comédienne apprentie soit hyper timide à la ville et que sur le plateau il se révèle comme ça et qu'il éclate et il se sente porté par le jeu ? Fernando, ça te fait rire ?
Ouais, parce que l'exemple il est à ma gauche.
Alors à ta gauche c'est Cali. Hein. Cali qui a l'air, qui est souriante et elle rougit un tout petit peu la pauvre. C'est tout toi ça ?
Oui, parce que j'étais très timide avant de commencer le théâtre, je parlais pas beaucoup et du coup le théâtre m'a permis de m'ouvrir plus et d'être plus ouverte à tout le monde et d'être plus sociable aussi.
Alors Lilou, quand on dit le théâtre c'est un truc de vieux, bon à 17 ans on peut pas dire que vous soyez vraiment vieux, mais quand on dit que c'est un truc de vieux et que c'est pas dans la vie, le théâtre c'est la vie finalement ?
Bah, moi j'adore le théâtre, donc oui, pour moi le théâtre c'est la vie. Je pense que plus tard j'irai encore au théâtre et je regarderai des pièces. C'est pour sa propre culture, je trouve que c'est génial d'aller au théâtre et de découvrir des trucs qu'on voit pas forcément.
Oui, Fernando.
Et je pense que outre l'aspect jeu d'acteur, interprétation, ça nous apprend aussi beaucoup de choses. L'élocution, comment bien parler, bien s'adresser face à un public, face à même des gens plus haut placés que nous, etc. Enfin, ça nous apprend plus que juste jouer un personnage devant des gens.
Et puis c'est vrai qu'entendre un jeune homme de 17 ans dire outre, c'est déjà quelque chose d'impressionnant. Alors, dernière question, la pièce, en tant que spectateur, qui vous a impressionné, Lilou ?
Bah forcément, il y a le Cercle des Poètes Disparus, parce que c'était incroyable, les acteurs, ils étaient exceptionnels, vraiment, c'est trop beau. Et il y avait aussi la première pièce qu'on allait voir, c'était Hedwig and the Angry Inch. C'était une comédie musicale et vraiment, là aussi, c'était exceptionnel. Il y avait de la musique, on s'ambiançait vraiment et c'était trop bien, en fait.
Et toi, Cali ?
Moi, c'était le Cercle des Poètes Disparus, parce qu'il y avait vraiment une ambiance, une énergie qui était vraiment entraînante et on était vraiment à fond dedans avec eux. Et ils nous faisaient ressentir des émotions comme si on partageait la scène avec eux. C'était vraiment extraordinaire.
Eh ben, je vais vous remercier. Alors aujourd'hui, on est le 21 mai. Dans une semaine, c'est le jour de la représentation. Vous savez le mot qu'on dit entre comédiens, mais on ne le dira pas à l'antenne. Merci.
Un nouvel extrait du travail des lycéens de Belfort férus de théâtre et qui ont choisi l'option théâtre au bac. On les découvre en répétition et dans leur travail, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et cette fois-ci, c'est Jeanne qui joue un extrait de 448, un texte extrait de Psychosis de Sarah Kane.
Je suis triste, je sens que le futur est sans espoir et que rien ne peut s'arranger. Je m'ennuie de tout, tout me déplaît, je suis une vraie ratée, je suis coupable. Et voilà ma punition. Je voudrais me suicider.
Radio Scénique par Éric Dauterre. le théâtre sur Aligre FM.
Bien entendu, ces lycéens de Belfort, ils sont encadrés et c'est leur prof de littérature que nous rencontrons, toujours dans les salons du Granit, le théâtre de Belfort. On l'écoute.
Valérie Savigna, Julien, bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre vos élèves, alors des élèves qui proviennent de 3 ou 4 lycées différents de Belfort et qui ont choisi l'option théâtre. Racontez-moi l'histoire de cette option et l'histoire de la constitution de ce groupe autour de ce collage de textes.
Alors, pour ce qui concerne l'option en elle-même et sa configuration, on est sur une collaboration entre les 3 lycées publics, les 2 lycées privés. Et là, on a aussi des élèves qui vont venir des établissements professionnels. On est sur du contrôle continu, en fait. Donc, on peut intégrer des élèves puisqu'on n'a pas d'épreuve terminale formatée. Donc, on a tous les lycées, en fait, de la ville qui peuvent envoyer leurs élèves en option.
Alors ça veut dire, pour ces élèves, aller régulièrement au théâtre et également participer à cette option théâtre, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une école du spectateur qui est constituée de 6 spectacles qu'on va choisir en fonction des niveaux, en fonction de la programmation de la scène nationale du Granit, qui est évidemment notre partenaire, notre précieux partenaire. Et puis, on va avoir, outre cette école du spectateur, donc des analyses de spectacles, bien évidemment, et de la pratique. Donc, cette pratique artistique, elle est encadrée de manière assez abondante hein, par un professionnel, par un artiste. Donc là, c'est Jérôme qui encadre les élèves. Il est metteur en scène, comédien, voilà.
Alors Jérôme Vaquier.
Jérôme Vaquier, oui bien sûr, pardon, oui, de la compagnie des Lucioles, et qui vient travailler avec eux sur des sessions de 3 heures par semaine, à hauteur d'une 10aine de semaines sur l'année quand même.
Alors là, on ressort d'une double session, on est à une semaine du spectacle, et il y a eu un premier filage et ensuite un filage technique. C'est un collage de textes avec un thème assez fort, hein. Vos élèves m'ont parlé tout à l'heure de la folie.
Oui, le point de départ, il était là. C'est un thème qu'on avait choisi en discutant un peu avec les élèves et en regardant la programmation du Granit. Au départ, il y avait des textes tirés d'Alice, par exemple, qui ont disparu au fur et à mesure de l'élaboration du projet. Andromaque, en revanche, est resté. Il y a un extrait d'Oreste dans le collage de textes. Et puis ensuite, on est allé en chercher. Certains élèves ont amené des textes. Le texte de Psychose de Sarah Kane, par exemple, c'est pas moi qui l'ai proposé, c'est Jeanne Ligier qui est donc une élève comédienne, on ne sait pas trop comment les appeler ces jeunes gens, en tout cas qui arrivent avec ce texte-là. Donc ils arrivent parfois avec leur texte et puis on adapte le projet autour de leurs propositions.
Alors on ne sait pas trop comment les appeler ces jeunes gens, apprentis comédiens, comédiens, lycéens. On ne sait pas non plus comment vous appelez-vous, parce que vous êtes enseignante, mais finalement vous êtes une encadrante et une professionnelle qui les accompagne. Il y a moins la hiérarchie que dans une matière ordinaire, j'ai l'impression.
Complètement, complètement, parce qu'on n'est pas avec un public captif. On est avec un public qui choisit, c'est-à-dire que c'est une option facultative. À partir du moment où ils s'engagent, elle devient moins facultative parce que précisément, ils font l'expérience de la troupe. Et précisément aussi, le cours de théâtre, c'est peut-être un des rares cours où, quand ils sont absents, ils nous manquent. Le cours ne peut pas se faire sans eux. Leurs camarades ont besoin d'eux. Un autre cours, on peut le faire sans un élève qui manquerait un cours. Mais là, quand ils sont absents, vraiment, on sent leur absence. Et c'est un manque. Donc ça engage aussi beaucoup, qui fait qu'on a des relations qui sont des relations sans doute beaucoup plus souples que dans un autre cours et en même temps beaucoup plus exigeantes.
Alors le système de notation, il joue un tout petit peu moins et surtout, c'est difficile d'avoir une notation individuelle sur un travail qui est autant un travail d'équipe que le montage d'une pièce de théâtre chorale et collective comme celle que vous apprêtez à mettre sur le plateau du Granit.
C'est vrai que la note, elle compte moins maintenant. On n'a plus d'évaluation terminale comme ça pouvait être le cas avant 2020. Par contre, ce qu'on va essayer d'évaluer, c'est peut-être la marge de progression des élèves dans des domaines un peu techniques, par exemple la voix, par exemple la précision des adresses, par exemple la rigueur dans la conduite du projet. On a également une dimension qui est une dimension plus théorique. on a des analyses de spectacles qu'ils doivent fournir, ou là on a une approche qui a une approche davantage dans l'analyse et moins dans la pratique. Donc c'est cet ensemble, et puis on travaille avec Jérôme Vaquier aussi, en tout cas pour l'élaboration d'une note terminale. Mais la note de plateau ou la note de pratique, elle intègre tellement effectivement de particularités qui sont propres à chacun d'eux. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment fédérateurs, qui sont vraiment des moteurs dans le groupe, pas tellement parce qu'on pourrait dire qu'ils jouent mieux ou qu'ils sont meilleurs comédiens, mais parce qu'ils sont à l'écoute, parce qu'ils sont disponibles, parce qu'ils sont pas là pour prendre la lumière, mais parce qu'ils sont là pour vraiment être généreux dans leur disponibilité à l'autre. Et ça, c'est vraiment des qualités extraordinaires. Et
Valérie Savigna-Julien, il y a autre chose aussi qui compte, c'est que c'est une chose qu'on travaille à peine au lycée, c'est le corps. Or, eux m'ont dit tout à l'heure, l'orientation de notre année de première au niveau de cette option théâtre, c'est le travail du corps. À cet âge-là, c'est fondamental le rapport avec son corps.
C'est fondamental, puis c'est une recherche qu'ils sont en train de construire, et tous ne la construisent pas de la même manière. Parfois le fait d'être au plateau, parfois le fait d'être observé va leur permettre de gagner en confiance. Parfois c'est vraiment au contraire un regard qui inhibe et qu'ils veulent affronter. En tout cas, quand ils sont là, on sait qu'ils le veulent. Donc le travail du corps, il est nécessaire, notamment à partir de la première encore davantage, puisqu'on travaille moins sur la dimension chorale et plus sur la construction d'un personnage. Donc ils ont des partitions qui sont un peu plus individualisées. Et oui, le corps, il est capital, ne serait-ce qu'à travers la voix, le souffle, c'est aussi du corps. Tout est dans le corps, la relation à l'espace, la relation au public, la relation au partenaire, même la relation au texte.
Alors, ils ont 17 ans, 17 ans et demi, ces élèves, donc ce sont des élèves de...
Première, niveau première, oui.
Vous les avez vus changer au fur et à mesure des répétitions, y compris de manière personnelle ?
Oui, de manière personnelle dans leur approche de leur texte, dans leur approche de leur partition aussi au plateau, dans la manière aussi dont ils ont gagné en confiance dans le groupe, où ils ont commencé à identifier quelles étaient les attentes de leur metteur en scène, qui les accompagne beaucoup. Jérôme Vaquier leur donne des directions qui sont des directions précises. Et là, maintenant qu'on a fait les premiers monstres, qu'on a fait les premiers bout à bout, ça commence à prendre une forme qu'ils identifient, qu'ils comprennent. Et à l'intérieur de cette structure-là, chacun va pouvoir se responsabiliser suffisamment pour donner ce qui lui semble le plus pertinent par rapport au projet et s'inscrire vraiment dans un projet et pas seulement dans une petite bulle individuelle. On n'est pas dans du one-man show, en fait, ou dans du one-woman show. C'est vraiment cette idée de faire un travail qui soit un travail collégial, même s'il y a une partition individuelle.
Alors, ce qui est impressionnant, c'est effectivement l'espèce de bienveillance qu'ils ont les uns vis-à-vis des autres, la préoccupation qu'ils ont de l'autre. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que le but ici, ça n'est pas d'en faire des comédiens.
Non, on est vraiment sur un horaire qui est quand même relativement léger. Ils n'ont que 3 heures par semaine. Donc, c'est pas là qu'on va les pousser. Donc, on cherche pas à en faire des comédiens professionnels, même si on a des élèves qui ensuite s'orientent vers des écoles de théâtre ou en art du spectacle, par exemple. Ça arrive très régulièrement.
Parlons d'un thème, je propose que ce soit la conclusion. Le théâtre, c'est une forme de reproduction sociale. Le spectateur de théâtre lui-même est un enfant de spectateur de théâtre, celui qui a le goût du théâtre, il a été exposé dans son plus jeune âge. Est-ce qu'on arrive à casser cette malédiction de la reproduction sociale en surexposant les jeunes au théâtre ?
C'est difficile comme question parce qu'il faudrait qu'on puisse avoir un suivi à long terme. Je dirais que ça se produit. Ça se produit, c'est sûr, et que parfois ça ne se produit pas de manière immédiate. C'est-à-dire que le fait d'avoir été à un moment donné familier d'un lieu comme un théâtre, ça va leur permettre, c'est un peu comme les vampires, une fois qu'ils ont été invités quelque part, ils s'autorisent à revenir sans qu'on leur en donne la permission. Et peut-être que ça sera l'occasion de faire aussi des adultes qui sauront s'emparer de ça, même avec leurs propres enfants, pourquoi pas. On ne sait pas dans quelle posture ils reviendront, si c'est dans une posture d'éducateur, si c'est dans une posture de spectateur. Mais beaucoup d'entre eux continuent à être spectateurs. Beaucoup d'entre eux arrêtent la pratique théâtrale. Certains la continuent maintenant ou la reprennent à l'université, par exemple, en théâtre universitaire, en impro aussi. Enfin, ils tentent des choses comme ça. Mais je pense que rien n'interdit d'espérer que le fait d'avoir identifié que ce lieu-là, ce n'était pas le lieu de l'altérité, mais que c'était le lieu vraiment de l'accueil. On a vraiment un accueil dans les théâtres qui est d'une bienveillance, d'une générosité folle. C'est vraiment un endroit où on vous place, c'est vraiment un endroit où on vous dit, on vous prend votre veste, on vous indique toutes les questions que vous pouvez vous poser. Elles fondent littéralement au théâtre parce qu'il y a une prise en main et qui n'est pas du tout, en plus, une prise en main par le mépris ou le dédain.
Alors, parmi les élèves qu'on a vus, vous m'avez dit qu'il y avait 5 lycées privés et publics qui étaient rassemblés, qu'il y avait un certain nombre d'élèves qui postulaient à cette option théâtre. Vous m'avez parlé aussi de lycées techniques. Est-ce que vous avez des élèves des lycées techniques qui sont présents dans vos groupes de théâtre ?
Alors, le lycée technique, ce n'est pas tellement ça la particularité, parce qu'il y a toujours eu une ouverture pour les lycées généraux et technologiques, en fait. Là, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir le Fernando, par exemple. C'est un élève qui travaille dans un lycée professionnel, pour le coup. Et il y a quelques années, c'était des élèves qu'on ne pouvait pas intégrer à l'option théâtre pour des questions de maquette d'examen, en réalité. C'était vraiment... voilà. Là, maintenant, on le peut et on est vraiment ravis de les accueillir. Et on sent à quel point ça va pouvoir fonctionner avec les autres exactement. Enfin, il n'y a pas de particularité dans le profil de ces élèves-là par rapport à la pratique du théâtre.
S'il y a une particularité, sur 16 au plateau, il y a 14 filles.
Oui, et bien cette année, c'est vraiment un groupe très féminin. Mais il y a 2 ans, j'avais un groupe que j'ai suivi sur la première et la terminale. Et en terminale, on était vraiment sur une répartition assez égalitaire pour le coup. Donc je pense que ça dépend des crues aussi. Hein. Voilà.
Merci Valérie Savigna-Julien. Rappelons que vous êtes enseignante en littérature et à ce cadre-là, vous encadrez ce groupe multi-lycée, pardon.
Et en théâtre aussi, on passe des certifications théâtre de manière à pouvoir encadrer peut-être de manière un peu plus pointue ce type de travail avec ces élèves-là.
En tout cas, Valérie Savigna-Julien, merci.
Radio Scénique par Éric Dauter, le théâtre sur Aligre FM.
Radio Scénique qui pose aujourd'hui la question de savoir si le théâtre est uniquement un truc de vieux. Bon, apparemment, on a résolu la question avec nos lycéens de Belfort et la réponse semble être non. Le théâtre, c'est aussi pour les jeunes. On l'a vu, les extraits que jouent ces jeunes qui ont pris l'option théâtre, ce sont des textes relatifs à la folie. Bah, voilà qui nous relie à votre texte. Laura Desprin, bonjour.
Oui, bonjour.
Votre texte, il s'appelle Coup de grâce et c'est un texte lauréat des EAT avec qui nous sommes partenaires. Les EAT, ce sont les écrivains et écrivaines associés du théâtre. Il s'agit là du prix tout public pour 2025. Vous êtes autrice, chanteuse, enseignante en conservatoire de théâtre. Vous avez été formée au conservatoire à l'École nationale supérieure de la comédie de Saint-Étienne, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça.
Et aujourd'hui, vous dirigez vers l'écriture. Avec Coup de grâce, de quoi s'agit-il et en quoi c'est relié à cette folie qu'on vient d'aborder avec ces élèves de théâtre de Belfort ?
Alors, il s'agit d'une pièce qui traite d'une relation amoureuse avant tout. L'amour prime dans cette pièce et d'une relation amoureuse entre une personne voilà, comme nous et puis une personne qui est atteinte d'un problème, d'une maladie mentale. Et du développement de cette relation et des difficultés que ces deux personnes vont rencontrer.
Alors vous dites, il s'agit d'un dialogue, c'est elle et lui, tout simplement.
Oui.
Ils n'ont pas de nom.
Oui. Non, ils n'ont pas de nom, parce que ça pourrait être n'importe qui. C'est une histoire qui malheureusement arrive. Ce sont des choses qui arrivent et je n'ai pas voulu les nommer. J'ai voulu laisser ça ouvert.
Vous avez voulu laisser ça très simplement. Très, très simplement, cette histoire qui se déroule... je vous propose une chose, c'est que vous avez eu la gentillesse d'enregistrer un extrait de votre texte. Je propose aux auditeurs de l'écouter.
À 18h, au mois de juin, le soleil tombe en oblique sur les bancs de la gare, découpant sur le bitume gorgé de chaleur des tranches de lumière violentes, précipitant le mur derrière les quais dans un abîme sombre, contraignant les formes ici déposées, manufacturées, à créer des jeux d'ombre et de clarté, où la main cherche les yeux pour les protéger de l'insupportable, où le soupir reste suspendu aux lèvres, cloué par le feu, où chaque parole est une vibration, un souffle comme émis par une oasis lointaine et tenant du mirage. Où je suis, petite robe, noire et bleue, croisée devant, cache-cœur, cache-mon-cœur, cache-cache. Où tu as cette façon si particulière de ne pas me regarder. Où au milieu de soi, dans cette attente, coule un pan d'ombre inatteignable, comme toujours, mais là, plus cruellement mis en forme par la lumière. Et je m'agite en dedans pour trouver quoi dire, car tu es si peu bavard, ou tu te perds en bafouillis, et rien ne vient, ce n'est pas grave. On peut attribuer ce silence à la chaleur, sans aucun doute, à cette langueur molle d'une fin d'après-midi, d'un juin suffocant, ou à cette atmosphère très particulière du quai de gare où chacun se sent envahi de mélancolie, ou d'attente, ou de regret, ou d'impatience, ou tout cela à la fois, enfin bref, où chacun est précipité vers soi-même, vers ce pan d'ombre inatteignable qui est comme une rivière obscure, découpée entre deux tranches de lumière objective, ce canal d'où je viens quand je te regarde. Et là, tu t'assois, et moi aussi, sur ce banc au soleil. Je ne sais plus lequel en premier se pose, et cela n'a aucune importance. Car toi, là, déjà, tu fais partie de moi. Je ne vois plus la différence entre ce toi projeté, une ombre projetée, et le moi dont je peux juste percevoir les contours, et encore pas tous, certains seulement, ma main, mon genou, le plissé de ma robe. Tu regardes devant tout à fait comme si je n'étais pas là, comme si tu étais seule dans cette clarté oblique, sous ce regard oblique que l'on porte sur quelqu'un qui nous plaît, mais pas encore tout à fait, et nos pensées sont obliques à ce moment, contiennent des oui mais, des peut-être, des pourquoi pas, et le soleil découpe ses pensées et en fait un tableau noir, ensoleillé, noir encore et lumineux, comme ces questions de bordée d'ombre. Vais-je lui plaire? Saura-t-il me regarder? Voir autre chose de moi que ces contours que je connais déjà? Saura-t-il éclairer la part de moi qui se tient tapie comme un animal aux aguets?
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Laura Desprins?
Oui.
Elle est venue comment cette... Voilà, c'est... On a mis un petit peu en musique, votre texte. Ça commence par un long monologue de la part de elle.
Très long.
Très très
oui.
Long.
Tout à fait.
Alors, vous l'avez un petit peu adapté à notre demande, hein, parce qu'on s'est dit, bon, moi je vous ai dit, essayez de nous en donner 2 minutes 30, une espèce de petit échantillon.
C'est ça. Oui, il est à peu près deux fois plus long et destiné donc à raconter l'éblouissement d'elle, mais aussi à provoquer cet effet de submersion qu'on ressent lors d'un coup de foudre amoureux. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout converge, l'intérieur, l'extérieur, l'ombre, la lumière, et plus rien n'existe sauf l'autre. Et là, en l'occurrence, donc on n'a pas la fin du texte, sauf l'autre et sauf... quelquefois un détail de l'autre, comme le disait Roland Barthes, juste un détail qui produit l'innamoramento. Et là, c'est le bras sur lequel quelques rayons de lumière tombent et dort la peau. Voilà.
Lors de la préparation de cette émission, vous m'avez dit que c'était une histoire d'amour très simple, qui alterne monologue et dialogue, qui alterne la pensée et l'inconscient des lapsus poétiques.
Oui, tout à fait. Des lapsus poétiques qui sont plus ou moins conscients, peut-être plus de sa part à elle, comme par exemple l'idée qu'il amène des roses ivoires à chaque fois et qu'elle lui dit « pour ivoire ». Voilà, ce genre de choses qui ponctuent le texte, qui sont comme un jeu de langue, un peu lacanien, qui sont comme un jeu de langue qui reflète cette relation qui finalement... va beaucoup tourner autour du désordre amoureux induit par la maladie et puis du désordre mental et qui va aussi chez elle provoquer certainement des remous intérieurs.
Il y a deux choses quand on écrit un texte de théâtre, c'est déjà qu'on choisit cette forme théâtrale et qu'on choisit un thème particulier. Alors, sur la forme comme sur le fond, quelle est l'histoire de ce texte?
L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, déjà.
Ou il y en a plusieurs. Vous m'avez dit que c'était, vous avez entendu plein d'histoires que vous les aviez collectées et puis vous aviez mis un petit peu de votre expérience personnelle en planquant
oui,
tout
voilà.
Ça.
Oui, voilà. Alors, quand je disais qu'il n'y a pas d'histoire, c'est parce que le texte tourne dans un cycle, mais on y reviendra peut-être. C'est vraiment le résultat d'un collectage d'expériences personnelles, de retours de personnes que je connais. J'ai la chance d'enseigner, donc je recueille aussi des témoignages. Je suis amenée à circuler parmi des personnes qui, quelquefois, peuvent présenter ce genre de problème. Et il y a aussi les lectures. Enfin bon, c'est vraiment, je veux dire, la tambouille commune de l'auteur, son chaudron de sorcière dans lequel plein d'ingrédients sont versés et quelquefois on ne sait même pas lesquels. Voilà, mais c'est c'est la somme de plein d'histoires, effectivement.
Alors, il y a un seul ingrédient qui manque, mais c'est intentionnel, c'est la dramaturgie. Il n'y a pas d'évolution dramaturgique dans votre texte. Pourquoi ?
Non, alors que je suis formée à la dramaturgie et que je l'enseigne, il se trouve que là, c'était impossible, comme je commençais à l'exprimer précédemment, tout simplement parce que c'est le genre d'histoire qui finalement ne peut pas évoluer. C'est-à-dire que bon, on peut aussi transformer ça en drame, mais ça serait vraiment, je veux dire, faire beaucoup de bruit pour une histoire qui finalement est si commune. Il ne s'agit pas de la transformer en drame. La tragédie est à l'intérieur, elle est comprise. Elle est dans l'œuf. Mais c'est finalement une histoire cyclique parce que rien ne peut évoluer, c'est-à-dire que la maladie toujours rattrape l'histoire en train de s'ouvrir, la coquille qui commence à se briser, soit elle la brise, soit elle se referme, on peut imaginer ça comme on veut, hein. L'image est là, mais l'histoire finalement tourne sur elle-même et revient toujours à son point de départ.
Alors un texte, une fois que... Oui. Je vous écoute, Laura.
Donc en fait, oui. En fait, du coup, pour rendre cette confusion du temps ou des temps, parce que c'est le cas, quelquefois ça parle au futur, quelquefois ça parle au présent, quelquefois ça parle au passé, parce que finalement tout est là, tout est donné dans la même tranche de temps, tout est là.
Laura Desprin, ce texte Coup de grâce, il existe, il a été écrit, maintenant il a été sélectionné. Quel est son devenir ? Qu'est-ce qu'il attend, ce texte ?
Alors, moi j'aimerais beaucoup, bon, il a déjà été lu en public, et il y a eu vraiment une réaction très forte de la part des spectateurs, beaucoup d'émotions. Moi j'aimerais qu'il soit lu dans un cadre, comment dire, dans un cadre peut-être plus proche de ce que j'ai voulu raconter, c'est-à-dire peut-être en passant par le dispositif ARS et puis en travaillant...
Le dispositif ARS, pardon.
Oui, qui finance des créations dramatiques.
Mmh.
Oui, des créations dramatiques ou pas dans des milieux liés à la santé. Donc moi j'aimerais qu'il soit lu ou joué dans des centres psychiatriques ou dans des hôpitaux autour de chez moi. Il y a pas mal de lieux de ce genre, dont La Borde, qui est un lieu qui a été longtemps à la pointe au niveau des soins psychiatriques.
Alors La Borde, vous êtes on n'a pas situé exactement où vous étiez géographiquement.
Oui. Donc je vis à Blois.
D'accord.
Et voilà. Et il y a vraiment une histoire liée à la psychiatrie. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que, parce que bon, je connais des gens qui travaillent dans ce milieu. Et il y a donc le centre de La Borde qui a été longtemps dirigé par Monsieur Houry, qui est donc quelqu'un de plutôt renommé dans le domaine, voire même très renommé.
Laura Desprin, je vais vous remercier. On va considérer la mise en radio, même brièvement, constitue une sorte de carte de visite de votre texte Coup de grâce, dont je rappelle qu'il a été sélectionné par les EAT pour la sélection. Bah, donc vous êtes lauréate, une des lauréates du prix, des prix EAT Tout Public pour 2025. Laura Desprin, merci.
Merci à vous.
Pascal, pendant que vous feuilletez votre chronique, on vient de l'entendre à l'antenne, vous allez nous parler aujourd'hui de théâtre médiéval qui a pour décor naturel celui des églises romanes.
En effet, après un entracte de plusieurs siècles qui a suivi la chute de l'Empire romain, la civilisation occidentale relève la tête une fois passée l'angoisse de l'an 1000. La religion est encore à la naissance de ce qui deviendra plus tard le théâtre que nous connaissons. Le christianisme s'est progressivement imposé en Europe, l'exercice du culte catholique a pour maison naturelle l'église et pour décor l'art roman. 11e siècle et 12e siècle, la pratique religieuse s'accompagne de scènes jouées que l'on appellera le drame liturgique. Il s'agit d'illustrer de façon plus concrète les principales étapes de la vie du Christ, de faire en sorte que le public, pour la plupart analphabète, non seulement accède à une compréhension immédiate, mais participe pleinement à l'action. On parlerait aujourd'hui de spectacle immersif. En effet, les comédiens, si on peut les nommer ainsi, car ce sont en fait des prêtres et des clercs légèrement costumés, jouaient des scènes en se déplaçant dans la nef. Les rôles féminins étaient assumés par des hommes. On pouvait ainsi entendre les tropes, parfois ajoutées aux écritures qui sont les dialogues entre Marie, Jésus et Marie-Madeleine, par exemple. Et le fait que celle-ci arborait une belle barbe grisonnante ne dérangeait visiblement pas le public. Celui-ci suivait la déambulation des protagonistes dans l'église au gré des scènes jouées.
Alors, dehors de Marie à la barbe, à quoi ressemblait ce drame liturgique, Pascal ?
Eh bien, par exemple, nous sommes à la fin du XIe siècle à Rouen, le lundi de Pâques. À la tombée de la nuit, on joue les pèlerins d'Emmaüs. Arrivent sur le côté deux prêtres à grande barbe. Le personnage jouant Jésus-Christ vient à leur rencontre sans que les deux hommes ne le reconnaissent. Il leur parle et demande pourquoi ils sont tristes. Puis ils remontent la nef en leur compagnie et tous les trois arrivent jusqu'au cœur de l'église. À cet endroit, une tente a été dressée qui figure l'auberge où le Christ enfin se révèle aux deux autres. Les disciples tombent à genoux. On peut imaginer l'effet produit sur les fidèles par cette scène dans le cadre d'une église romane, encore à l'époque un sujet d'émerveillement, avec cet éclairage à la bougie qui ajoutait encore à la magie de la représentation. Parmi les autres sujets convoqués pour ce genre de spectacle, on peut utiliser le thème de la nativité, les rois mages ou la conversion de saint Paul, entre autres. Et puis, au début du XIIe siècle, un disciple d'Abélard introduit des mots de langue vulgaire, disons populaire, dans les textes en latin, ce qui aura beaucoup de succès. Progressivement, les acteurs vont se diriger vers le narthex, puis vers le parvis où le public se réunit. C'est sur le parvis qu'auront lieu les miracles.
Et comment ces miracles se produisent-ils ?
Eh bien, il faut dire que nous sommes maintenant à la fin du XIIIe siècle. Le temps passe, voyez-vous. Donc, il s'agit de l'histoire de la vie d'un saint ou d'une légende historique, d'un fait divers. En tout cas, à la fin, le saint arrange tout sur le principe du Deus ex machina. Le plus ancien miracle serait celui raconté par le trouvère Ruteboeuf, mort en 1280. Il s'agit de la légende des Théophiles qui auraient conclu un pacte avec le diable, mais il implore finalement la Vierge qui, touchée par sa ferveur, le délivre du contrat maudit. L'histoire se finit mieux que dans le mythe de Faust. Il y a aussi de nombreux miracles de Notre-Dame dans lesquels la Vierge se multiplie en faveur d'escrocs, de parjures et de criminels, pourvu qu'ils se repentent.
Et puis il nous faut parler des mystères, Pascal. Qu'est-ce qu'ils ont donc de si mystérieux ?
Eh bien, ce sont des spectacles qui apparaissent au tout début du XVe siècle, à la fin du Moyen-Âge. Donc, on les joue encore sur le parvis de l'église, mais de plus en plus souvent sur les places publiques ou à l'extérieur de l'enceinte de la ville, car il faut beaucoup de place pour accueillir les milliers de spectateurs. Le mystère se produit devant la ville entière. Le dispositif peut être un alignement de constructions appelées mansions, comme des maisons, à l'arrière desquelles sont érigées les tribunes pour le public. On passe à des pièces de 30 000 vers ou plus, et il peut nécessiter de 6 à 25 jours de représentation. Les mystères ont lieu la période de Noël, de Pâques et à la Pentecôte. Pour incarner des centaines de personnages, il faut faire jouer au moins 100 comédiens. L'histoire peut se dérouler en plusieurs époques et différents lieux. Le mystère peut traiter de l'Ancien ou du Nouveau Testament, de la vie des saints et des martyrs, de la passion du Christ surtout. Aux principaux protagonistes sont ajoutés des démons hideux et repoussants qui entraînent les méchants dans la gueule de l'enfer ou bien amusent la galerie avec des pitreries.
Merci Pascal, on continuera notre histoire du théâtre en votre compagnie avec la période de la Renaissance lors d'une prochaine émission. Voici terminée la 16e édition de Radio Scénique, le magazine de la création scénique, sur l'antenne d'Aligre FM 93.1. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'être reçus à la scène nationale, le Granit, par Fernando, Lily, Laureline, Sébastien, Chloé, Cécile, Léonie, Jeanne, Louane, Lilou, Amy, Samantha, Juliette, Cali, 14 lycéens et lycéennes qui ont souscrit à l'option théâtre et qui répétaient le spectacle de leur fin d'année. Je vous dois une rectification que Pascal, toujours... très à l'écoute, me demande de vous faire. Le théâtre et donc la ville de Belfort ne se situe pas sur le Doubs, mais sur la Savoureuse, le nom du fleuve qui traverse la ville. Voilà qui est rectifié. Merci aux lycéens et aux lycéennes d'avoir autorisé nos micros pendant leur répétition. Merci à leur enseignante Valérie Savigna-Julien. Merci également à toute l'équipe technique du Granit pour son accueil. Le Granit, bah, je vous l'ai dit, c'est le nom du théâtre de Belfort. Et pour vous donner des nouvelles de nos lycéens qu'on a rencontrés pendant leur répétition, ils ont montré leur spectacle de fin d'année fin mai, et au dire de leur prof, leur représentation s'est bien passée et elle résume cette année avec les termes d'énergie et de rigueur. Notre invitée autrice du jour, c'était Laura Desprin. Avec son texte, elle est lauréate du prix des EAT Tout Public pour 2025, et son texte a pour nom Coup de grâce. Merci également à elle. L'équipe de Radio Scénic, c'est Pascal Dutertre à la chronique et Pierre Demkoff, assistant et programmateur musical de l'émission. Un grand merci à eux. Un immense merci également à notre valeureuse équipe technique, composée aujourd'hui de Enrico Mastrogiovanni, de Anaïs et de Renaud. Mais merci à tous les trois. C'était parfait. Radio Scénic, c'est la fin de la saison avant la trêve estivale. Il est 10h56 à 11h. Vous retrouverez le vrombissement de la caméra. Il sera temps pour vous de retrouver Vive le cinéma sur Aligre FM 93.1.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.